Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 7h en temps universel. Au micro, Nanit Talani. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre pour Le Monde aujourd'hui, votre rendez-vous quotidien pour faire le point sur l'actualité. On vous en dit plus dans les prochaines minutes, mais d'abord, voici les principaux titres de cette édition du vendredi 25 août 2023. Les 5 pays émergents des BRICS en sommet à Johannesburg décident d'accueillir 6 nouveaux membres, une expansion qualifiée d'historique. Les militaires au pouvoir au Niger annoncent qu'ils autoriseront l'armée du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur leur sol en cas d'agression. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump était en Géorgie hier, le temps d'une prise d'empreinte après son inculpation pour ses tentatives présumées d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020. Au Mali, la principale voie de ravitaillement de Mopti, toujours bloquée par des groupes djihadistes. Les habitants appellent à l'aide. Un reportage à venir en seconde partie du journal. Et puis n'oubliez pas vos rendez-vous habituels avec l'économie et le sport, mais en attendant le journal. Washington accuse les autorités du Zimbabwe d'avoir arrêté des observateurs chargés de veiller au bon déroulement des scrutins législatifs et présidentiels de mercredi qui ont été prolongés donc d'une journée jeudi en raison de retards importants provoqués par un manque de matériel de vote. Les États-Unis appellent à leur libération. Les BRICS réunis à Johannesburg ont annoncé hier une expansion du bloc des 5 pays qui va intégrer 6 nouveaux membres dès janvier prochain. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
L'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont invités à rejoindre le groupe, a annoncé hier le président Cyril Ramaphosa. Le président chinois Xi Jinping a salué un élargissement historique qui a été au centre de ce 15e sommet des BRICS. Téhéran a salué un succès stratégique pour sa politique étrangère. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a évoqué un moment fort tandis que l'Égypte s'est dite impatiente de faire entendre la voix des pays du Sud. Le président émirati Mohamed Ben Zayed s'est félicité de l'adhésion de son pays qui respecte la vision des dirigeants des BRICS. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, apprécie l'invitation mais dit attendre des précisions sur la nature de l'adhésion. Les tractations ont été menées à huis clos. Les discussions ont été intenses et ne se sont pas déroulées sans problème, a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. Les BRICS revendiquent un équilibre mondial plus inclusif face à l'influence des États-Unis et de l'Union européenne. Le bloc réaffirme une position non alignée à l'image de la conférence de Bandung de 1955.
L'État du Sénégal va se constituer partie civile pour obtenir une indemnisation dans les procédures judiciaires ouvertes contre l'opposant Ousmane Sonko et son conseil franco-espagnol Juan Branco en lien avec de récents troubles dans le pays. C'est ce qu'ont annoncé hier ses avocats. Les précisions de John Lindon.
L'État a souffert des attaques et pillages et des biens publics dans plusieurs domaines, dont les transports et l'eau sur l'ensemble du territoire national, en plus de pertes enregistrées par le secteur privé, a déclaré une de ses avocats des Antambay. Il ne ménagera aucun effort pour rendre effective la réparation du préjudice, a ajouté Maître Mbay lors d'un point de presse à Dakar. Les dommages présumés subis par l'État n'ont pas été précisés. Une constitution de partie civile déclarée recevable par un tribunal ouvre la voie à d'éventuelles indemnisations pour les préjudices subis. Celle de l'État est différente de l'action publique ouverte par le parquet. Le Sénégal a connu des troubles rares dans le bras de fer depuis plus de 2 ans entre le pouvoir et l'opposant Sonko, écroué fin juillet sous différents chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État.
Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger il y a près de 2 mois ont annoncé qu'ils autoriseront les forces armées de leurs voisins du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur leur sol en cas d'agression. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina et du Mali, Olivia Rouamba et Abdoulaye Diop, étaient en visite jeudi à Niamey où ils ont été reçus par le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tchani. Ils ont salué la signature d'ordonnance autorisant les forces de défense et de sécurité du Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression, selon un communiqué lu par Oumarou Ibrahim Sidi, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères nigérien, à l'issue de la visite. Au Gabon, près de 850 000 électeurs inscrits se préparent pour voter demain samedi de manière inédite pour 3 élections le même jour, la présidentielle, les législatives et les municipales. Pour la présidentielle, les Gabonais décideront de confier ou non un 3e mandat au président Ali Bongo Ondimba face à 13 autres candidats, parmi lesquels Albert Ondo-Ossa, professeur d'économie de 69 ans, que les principaux partis d'opposition ont choisi comme candidat consensuel. À 64 ans et au pouvoir depuis 14 ans, le chef de l'État sortant, M. Bongo, brigue donc un 3e mandat. La principale plateforme de l'opposition, Alternance 2023, appelle à ignorer les législatives pour se concentrer sur la présidentielle, seul enjeu des élections.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Arabie Saoudite dénonce un rapport accusant les gardes-frontières du royaume d'avoir tué des centaines de migrants éthiopiens depuis l'année dernière. D'après Riyad, il s'agit d'un rapport politisé et trompeur. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Dans une déclaration faite jeudi, une source du gouvernement saoudien citée par l'agence de presse officielle saoudienne dénonce, je cite, « le fait que certaines organisations soulèvent de fausses allégations au sujet du royaume, ainsi que la publication et la promotion de rapports politisés et trompeurs dans le cadre de campagnes médiatiques malveillantes qui sont répétées à des fins et objectifs suspects ». La source saoudienne, qui n'a pas été nommée, a déclaré que les autorités se sont engagées à respecter les droits de l'homme et ont déjà fourni des soins médicaux à des groupes de personnes qui ont été blessées par balles par des groupes armés pour les pousser à entrer dans le royaume par la force. Human Rights Watch a déclaré lundi que les gardes-frontières saoudiens ont tiré à bout portant sur des Éthiopiens qui ont tenté de rejoindre l'Arabie saoudite depuis le Yémen. L'ONG accuse les gardes saoudiens d'avoir utilisé des armes explosives dans le cadre d'attaques qui semblaient généralisées et systématiques et a déclaré que les meurtres pouvaient être assimilés à des crimes contre l'humanité. Le rapport a suscité l'indignation après sa publication. Une source du gouvernement saoudien avait rapidement rejeté ces allégations comme infondées et ne reposant pas sur des sources fiables.
Ici, aux États-Unis, Donald Trump a été soumis hier à une prise de photo d'identité judiciaire dans une prison d'Atlanta, dans l'État de Géorgie. Une première pour un ancien président dans l'histoire des États-Unis. Il est accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle de 2020. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Donald Trump est désormais fiché comme n'importe quel justiciable poursuivi en justice avec ses caractéristiques physiques ainsi détaillées, 1m90, 98 kg, cheveux blonds, vénitiens et un matricule, libéré grâce au paiement d'une caution de $200 000. L'ancien président a rapidement quitté la prison d'Atlanta dans un convoi motorisé placé sous haute sécurité. Il dénonce un simulacre de justice et une ingérence électorale de la part des autorités de l'État de Géorgie qui l'ont inculpé. « Je n'ai rien fait de mal en remettant en cause les résultats de la présidentielle de 2020 », a déclaré M. Trump. Plusieurs des 18 co-accusés de l'ancien président étaient déjà passés cette semaine par la prison du comté de Fulton. Tous ont été inculpés le 14 août de tentatives illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020, remportée dans cet état clé par l'actuel président Joe Biden. La loi sur la délinquance en bande organisée, utilisée par la procureure pour inculper solidairement les 19 accusés, prévoit des peines de 5 à 20 ans de prison. Les prévenus doivent revenir à Atlanta 7 fois au tribunal la semaine du 5 septembre pour annoncer s'ils plaident coupables ou non. C'est la 4e inculpation pour Donald Trump en 6 mois.
Les États-Unis annoncent qu'ils formeront des pilotes ukrainiens à partir de septembre au maniement de l'avion de combat F-16, un appareil que les Occidentaux ont longtemps été réticents à fournir à Kiev. La communauté internationale a ratifié hier un nouveau fonds mondial pour la biodiversité visant à accélérer la protection de 30% de la planète d'ici 2030, objectif fixé lors de la COP15 l'an dernier. Et ce fonds permettra de mobiliser différents gouvernements et acteurs privés afin de soutenir les pays en développement, notamment les petits États insulaires les plus vulnérables. Pour la première fois, il inclura notamment une part de 20% destinée directement aux initiatives autochtones et locales visant à protéger la nature. Voilà pour le journal. À présent, voici les dernières nouvelles économiques en Afrique avec Nathalie Barge.
Le sommet des BRICS à Johannesburg s'est refermé hier sur une annonce d'ouverture à 6 nouveaux membres dès janvier 2024. L'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Les membres actuels sont le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. La Chine qui pèse 70% du PIB de ce groupe de pays non alignés. L'admission de l'Éthiopie au sein des BRICS est un moment fort, s'est réjoui le Premier ministre Abiy Ahmed, ajoutant que son pays est prêt à coopérer pour un ordre mondial inclusif et prospère. L'Éthiopie entretient des liens étroits avec la Russie et la Chine, son principal partenaire commercial. Après avoir connu une économie dynamique, sa croissance a été enrayée par la pandémie, les aléas climatiques et le conflit au Tigré. Le Kenya va entamer les travaux de construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le port de Lamu à l'Éthiopie et au Soudan du Sud en 2025 pour un coût de 13,8 milliards de dollars. Ces travaux entrent dans le cadre d'un projet qui prévoit de relier les trois pays par une voie ferrée, une autoroute, un oléoduc et un câble de fibre optique. Le chemin de fer de 3000 km va relier Lamu à Isiolo où il se divisera en trois segments vers Addis Abeba, Juba et Nairobi.
Maintenant, place au sport et nous invitons Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Pas de médaille pour Wout Van Niekerk sur 400 mètres aux Mondiaux d'athlétisme à Budapest.
Oui, le Sud-Africain, recordman du monde de retour au premier plan après des années de galère liées à des blessures, n'a pas tenu dans la dernière ligne droite pour couper la ligne en 45 secondes 11. Wade Van Niekerk n'a pris que la 7e place. Le jeune Jamaïcain Antonio Watson, 21 ans, a créé la surprise en s'imposant 44 secondes 22. Il a devancé le Britannique Matthew Hudson-Smith, qui s'était emparé du record d'Europe en demi-finale, et l'Américain Quincy Hall. Seulement 29e au classement mondial de la discipline, Watson avait été champion du monde cadet, moins de 18 ans de la discipline en 2017, à seulement 15 ans.
Début ce vendredi des matchs retour du premier tour préliminaire des Coupes africaines.
Un seul match en Coupe de la CAF aujourd'hui. Azam de la Tanzanie fait face à Bahir Dar Kenema de l'Éthiopie. En Ligue des champions, le centre sportif Benje du Gabon croise les crampons contre Bumamuru du Burundi. Almerek du Soudan joue contre Otoo Doyo du Congo. Demain samedi, le stade malien de Bamako affronte Watanga FC du Libéria au stade du 26 mars de Bamako. Ce match retour se prépare dans de très bonnes conditions selon le coach du stade malien, Sekousek Dibako. Et d'ajouter que ses joueurs sont conscients de l'enjeu puisque son club est allé gagner à l'aller au Libéria par le score de 3-1.
Le groupe vit bien et tout va bien. Les joueurs ont envie de jouer. Je pense qu'ils ont tous envie d'achever quelque chose qu'ils ont commencé. On sait que ça va pas être facile. L'équipe adverse va venir nous poser des soucis parce qu'on a gagné là-bas 3-1. Donc il faut pas se dire que le match retour va être quelque chose de facile. Le mot d'ordre, c'est aussi simple. Il faut se qualifier.
Sekousek Dibako au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Pour terminer, Yakuba, il y a le patron du foot espagnol qui va présenter sa démission aujourd'hui.
C'est ce qu'affirment des médias espagnols au cœur d'un scandale après avoir embrassé de force une joueuse lors de la victoire de l'Espagne dimanche au Mondial. Luis Rubiales va démissionner lors de l'Assemblée générale extraordinaire de sa fédération ce vendredi. Le président de la Fédération espagnole de football se trouvait sur un siège éjectable depuis qu'il a embrassé par surprise sur la bouche Jennifer Hermoso devant les caméras du monde entier juste après le sacre de l'Espagne face à l'Angleterre, faisant réagir les plus hautes instances du ballon rond. L'affaire est remontée jusqu'au premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a qualifié son geste d'inacceptable. la FIFA a lancé à son encontre une procédure disciplinaire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour pour nos dossiers du jour. Dans le centre du Mali, le trafic routier est bloqué depuis des mois à partir de la ville de Koro par des groupes armés. Cela affecte le transport entre le Mali et le Burkina Faso. La fermeture de cette route, principale voie de ravitaillement de toute la région de Mopti, a des conséquences sur le quotidien des populations. De Koro, voici la correspondance de Tidjani Ouedraogo.
Cette interruption du trafic routier sur la voie communément appelée route des poissons ou encore la route Liptako-Gourma à partir de la frontière du Burkina Faso a affecté négativement le quotidien des populations de Koro et toute la région de Mopti. Selon Hamadou Nyangali de la Chambre de commerce de Koro, les commerçants sont les premières victimes de cette interruption.
Nos marchandises viennent de Ouagadougou, Cotonou et Lomé et passent sur ce tronçon. Depuis 3 mois, le trafic est interrompu. Nous sommes à la frontière, on souffre de cette situation. À titre d'exemple, le sucre est passé de 22 000 francs à 35 000 francs aujourd'hui.
Selon plusieurs témoins, des hommes armés non identifiés ont interdit le trafic sur ce tronçon, affectant les coûts de la vie. Koyan Traoré est sage-femme. Comme de nombreuses femmes, elle peine à joindre les deux bouts.
Les denrées alimentaires sont chères ici. Et même si on a l'argent, on ne les trouve pas. Surtout que la route qui mène pour Burkina Faso est barrée. Et même si on passe les commandes à Bamako, avant leur arrivée, on trouvera que tout est gâté.
Dans les marchés et les foires hebdomadaires, les échanges commerciaux tournent au ralenti. Binta Kodjo profitait bien de son activité commerciale avant cette crise.
Je vends les articles pour enfants. La plupart de mes articles viennent de Bamako ou de Burkina Faso.
La douane et les services de transit sont en chômage technique. Pour les autorités communales de Koro, la route nationale numéro 15 est le poumon de l'économie dans le centre du pays. Ils interpellent les autorités maliennes et du Burkina pour une solution durable. Issaka Somburo, adjoint au maire de Koro.
J'interpelle les autorités maliennes et les autorités burkinabées de faire tout pour la réouverture du tronçon qui est la RN15. Cette route est tout pour nous. Et sans cette route, on n'a pas accès au port de Cotonou. Donc aujourd'hui ici, la population souffre énormément, à savoir les commerçants et même dans les foyers.
En attendant, les villages frontaliers des deux pays traînent leur mal en patience. Tous espèrent sur la réouverture prochaine du tronçon pour la reprise des échanges commerciaux. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En Guinée, de nombreux jeunes diplômés peinent à trouver le premier emploi, principalement à cause de l'inadéquation entre la formation et les besoins des employeurs, entre autres. Cette situation vient s'ajouter au taux de chômage très élevé chez les jeunes dont l'âge varie autour de 25 ans. Certains à Conakry sont obligés de faire de petits boulots, comme le rapporte notre correspondant Zakaria Camara.
À Conakry, rencontrer dans la rue un sans-emploi n'est pas la chose la plus difficile.
Je suis entre la maison, le café, c'est comme ça que je passe la journée. C'est difficile. Tu peux sortir chercher des emplois, mais c'est difficile de l'avoir.
Les cafés, l'un des endroits choisis par des jeunes en quête du boulot et d'autres désœuvrés, certains avec un diplôme en poche.
Moi, j'ai fait le droit à l'université. Vous ne serez pas surpris de voir la jeunesse au café du matin au soir, en train de jouer avec les jeux de Paris, en train de faire n'importe quoi, le banditisme. Tout résulte de là. C'est les conséquences directes. La situation actuelle de la Guinée pousse les jeunes à tout.
Selon les chiffres officiels, près de 21 000 jeunes sortent chaque année des établissements d'enseignement supérieur. Mais pour certains, c'est la débrouille, à l'image de Kéoulé Lelano, qui se lance dans les métiers de l'esthétique pour devenir manucure dans un marché de la capitale.
Après l'université, bon, j'ai commencé à faire les stages à chaque fois. Les stages, quand tu pars, on sait en Guinée, avec les stages, comment ça passe. Tu fais un, bon, après la fin maintenant, bon, tu vois autre chose maintenant. À chaque fois, le transport, bon, c'était pas facile. Mais bon, je vis, quand je viens ici, les week-ends, les trois jours là seulement, ouais, ça va. J'ai dit, bon, pourquoi pas suspendre d'abord l'autre côté. Le talent que j'ai là, je vais essayer de mettre sur le marché.
6 jours sur 7, Lelano donne des soins de beauté des ongles, réalise des créations artistiques sur les mains et pose des faux ongles. Amara, son collègue, se dit satisfait de leur activité.
J'ai remplacé le papa pour le moment. Malgré le papa n'a pas de moins, on ne peut pas du tout. C'est grâce à ce métier-là. Si on était dans le quartier préparé d'Ataya, on n'allait pas avoir cette place-là, la famille.
Les clientes, elles, viennent et reviennent toujours.
Ma soeur qui m'a envoyé ici travaille bien et dolote les clientes. Vraiment, tout ça se passe bien.
Il y a des autres qui font de n'importe comment, prennent de la drogue, volent les gens. Moi, j'apprécie leur travail parce qu'il y a des hommes qui font plus que les femmes.
En Guinée, environ 60% des jeunes, dont l'âge varie autour de 25 ans, sont touchés par le chômage ou le sous-emploi. En 2022, les autorités de la transition ont organisé des journées de réflexion en vue de définir les bases d'une réforme des programmes favorisant l'employabilité des diplômés. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Plus de 8000 Mauritaniens ont franchi la frontière américaine via le Mexique ces 4 derniers mois. Ils ne sont découragés ni par le périple long et coûteux, ni par les nombreux risques encourus. Voici les notes de reportage de Mohamed Diop depuis Nouakchott, la capitale mauritanienne.
Tout le temps, je pense à lui, je pleure, je dis comment mon père est parti. Je ne sais pas s'il va revenir ou pas, on ne sait jamais. Mais bon, alhamdoulilah, Dieu est grand.
C'est mon mari qui est parti aux États-Unis et comme vous le voyez, je suis seule avec les enfants. C'est difficile, ils ne cessent de réclamer leur papa. Heureusement qu'on se voit en appel vidéo.
Atouman, le père de Nana, dit être contraint de quitter son pays.
En Mauritanie, je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu comme galère et trop d'injustice. On voyageait dans des conditions difficiles à bord de véhicules tuk-tuk, de motos et même dans des rivières. Parfois, on se perdait en chemin. À tout moment, on pouvait être arrêté. Notre vie était vraiment en danger. Et je me disais, soit j'arrive à destination, soit je meurs sur la route, mais pas question de revenir en arrière.
Malade, le mari de Poulo dit avoir fui un avenir sombre.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous avez quitté la Mauritanie?
Après mes études coraniques, je me suis donné à plusieurs métiers, plomberie, manœuvre et autres, mais rien de cela ne m'a rapporté quelque chose. J'étais plutôt exploité en permanence, alors que j'avais des bouches à nourrir.
Atouman et Malal font partie de la vague de Mauritaniens qui empruntent le chemin de l'exil vers les États-Unis, appelée communément la route du Nicaragua. Une route très coûteuse, 10 000 dollars seulement pour le billet d'avion. Une route aussi très risquée. Le 3 août 2023, un Mauritanien candidat au départ a perdu la vie à l'étape Mexique. Le véhicule le transportant s'est renversé. D'autres sont kidnappés. Les plus chanceux comme Yero sont dépouillés.
Je ne sais pas s'ils sont des policiers ou des gendarmes. Ils étaient en tout cas en cagoule et travaillaient sûrement pour l'État mexicain. Ils m'ont presque tout pris, tout mon argent. J'ai caché ça dans une pâte dentifrice, mais ils l'ont saisi en se moquant même de moi.
Malgré tout, le phénomène s'intensifie. La presse américaine rapporte plus de 8500 Mauritaniens entrés irrégulièrement aux États-Unis par le Mexique. Ce, en 4 mois, de mars à juin 2023. En Mauritanie, les experts tentent de trouver des explications.
Beaucoup de jeunes mauritaniens rêvent de devenir riches en un temps record. Il est donc facile de les désorienter avec des illusions d'Eldorado et de paradis sur terre. Ils pensent qu'arriver aux États-Unis, on change sa vie avec une baguette magique. En réalité, ils sont mal informés sur les migrants dans ce pays. Certes, on peut trouver là-bas du travail, mais aller jusqu'à réaliser son rêve de faire une grosse fortune, avoir des terres, véhicules de luxe, ce n'est pas toujours possible à mon avis.
Une ONG locale s'est même créée pour contrer le phénomène.
Nous disons non à la migration périlleuse, mais on ne s'arrête pas là. On propose des alternatives aux candidats au départ.
Sauf que rares sont les candidats prêts à renoncer à l'exil tant rêvé chez l'oncle Sam. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et des discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, 8 candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont partagé la scène mercredi soir dans le Wisconsin pour le premier débat de leur parti en vue de l'élection de l'année prochaine. Steve Herman de la VOA était sur place. Ils nous en dit plus depuis la ville de Milwaukee. Récit d'Arzuma Compaoré.
Le débat de 2 heures, le premier organisé par les républicains dans ce cycle électoral, a donné lieu à des échanges animés sur ce que l'un des modérateurs a appelé l'éléphant absent dans la pièce, à savoir l'ancien président Donald Trump. Certains des candidats, comme l'ancien vice-président de M. Trump, Mike Pence, et l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, ont estimé que M. Trump n'avait pas le droit d'occuper à nouveau le fauteuil présidentiel en raison de ce qu'il considère comme un manque de respect pour la Constitution, ainsi que les plus de 90 chefs d'accusation dont il fait l'objet. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a déclaré Trump est l'homme politique le plus détesté des États-Unis. Nous ne pouvons pas gagner une élection générale de cette manière. Toutefois, le novice en politique Vivek Ramaswamy, qui monte dans les sondages, a soutenu M. Trump, affirmant qu'il était le meilleur président du XXIe siècle. M. Ramaswamy s'est également démarqué en remettant en question le soutien américain à l'Ukraine, affirmant que la Chine représentait une plus grande menace pour les États-Unis que la Russie. Plusieurs autres candidats, dont Nikki Haley, également ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, ont exprimé leur soutien à l'Ukraine. Après le débat, M. Pence a déclaré aux journalistes que personne n'aurait dû être surpris par sa vigueur sur la scène du débat.
J'ai été le principal défenseur des valeurs conservatrices dans l'administration Trump-Pence. Je sais comment me battre et j'étais heureux d'apporter ce combat ce soir.
Le principal adversaire de M. Pence dans le débat, M. Ramaswamy, a déclaré qu'il appréciait les attaques verbales de l'ancien vice-président à son encontre.
Mike Pence me parle du différentiel d'expérience. Je pense que c'est une bonne chose parce que je ne pense pas que les électeurs dans ce pays soient intéressés par un retour à des gens qui récitent des slogans qu'ils ont appris par cœur en 1980.
Les Républicains organisent leur deuxième débat le mois prochain en Californie. Mais l'un des candidats reviendra ici, sur la même scène, dans le Wisconsin, en juillet prochain, pour accepter l'investiture du parti.
Le Monde aujourd'hui est arrivé à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute la rédaction qui a contribué à sa réalisation. Un merci spécial à Fatouma Ali Masikalala qui était à la réalisation et à Djoumbe Hamza qui était à la console. Au micro, Nanit Talani. Pour ne rien manquer de l'activité, nous vous invitons à rester connectés sur notre site internet VOA Afrique et aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter et YouTube, pour plus d'informations 24 heures sur 24. Excellente journée à vous, à bientôt.